Étranger, ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts? Donnons tout de suite la parole à notre invité.
L'espèce d'énergie qui me fait écrire, c'est une phrase: ce qu'il porte en lui est trop grand et le monde trop petit. Je pense que moi, j'ai vraiment eu en grandissant ce sentiment-là d'avoir quelque chose en moi de trop grand pour moi, que je pouvais pas comprendre, que je pouvais pas vivre dans un sens, qui débordait de partout. Puis l'écriture, ça a été une manière de pas faire de l'ordre, parce que ça est trop anarchiste, l'écriture, pour ordonner les choses, mais une manière d'ouvrir un processus de compréhension. L'écriture, c'est un travail du raté mieux. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à écrire l'idée qu'on avait, l'idéal du livre, le fantasme qu'on avait du texte qu'on voulait faire, on y arrive jamais. Mais faut apprendre à vivre avec ce ratage-là. Faut apprendre à avoir une relation, je pense, déculpabilisée avec le ratage. Faut apprendre à rater mieux.
Bonjour Kevin Lambert.
Bonjour.
Je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre du Festival America. Donc vous êtes présent sur les deux ou trois jours. Moi, je suis là pendant deux jours, mais vous...
Ouais, trois, je pense.
Trois.
Quatre, même.
Alors je sais que vous avez un énorme programme, beaucoup de débats. Hier, j'ai assisté au débat sur écrire le sexe, qui était passionnant. Alors, avant de parler de vos différents livres, j'aimerais lire une citation donc, de Jean Genet, parce que, alors, évidemment, ce qui m'a fait penser à Jean Genet, c'est votre livre « Querelle » de Robert Valpe, paru en 2018 au Québec, aux éditions Héliotrope. Alors, on parlera aussi de ça, mais un peu plus tard. Vous avez deux éditeurs, et ça m'intéresse de creuser la question. Pourquoi donc? Donc, en France, c'est le nouvel Attila. Mais donc, « Querelle » de Robert Valpe, évidemment, « Querelle de Robert Valpe »,« Querelle de Brest », Jean Genet... Et hier, vous avez dit aussi quelque chose sur... il vous arrivait de trouver de la bonne littérature, mais dans les poubelles. ça fait tilt chez moi. Je me dis, poubelle, machin, tout ça. Je me suis Jean Genet. J'ai repensé à cette citation donc, que je vous livre, et on va rebondir là-dessus. « Et oui, je suis pédéraste, mais je le suis avec rigueur et logique. Qu'est-ce qu'un pédéraste? Un homme qui, par sa nature, s'oppose à la marche du monde, se refuse à entrer dans le système en vue duquel le monde est organisé. Le pédéraste refuse cela, nie cela, ébranle cela, qu'il le veuille ou non. Pour lui, le sentiment n'est que sottise et duperie. Il n'y a que le plaisir. Vivre de surprise, de changement, accepter les risques, s'exposer aux affronts, c'est le contraire de la contrainte sociale, de la comédie sociale. Mon imagination est plongée dans l'abjection, mais sur ce point-là, elle est noble, elle est pure. Je me refuse à l'imposture, et s'il m'arrive d'exagérer en poussant héros et aventure vers l'horrible ou vers l'obscène, c'est dans le sens de la vérité. Point. Alors ça, c'était Jean Genet.
Très belle citation.
C'était Jean Genet, mais je trouve que c'est pas mal Kevin Lambert aussi.
Ben oui, moi, ça a été important, Genet, puis sa démarche de rendre les exclus, puis toutes les personnes qui sont frappées d'abjection sociale, de les rendre magnifiques, de renverser leur haine en beauté, leur crime en sainteté. Moi, je trouve que c'est un geste qui est vraiment puissant, puis qui est éminemment littéraire, parce qu'il y a juste la littérature qui peut faire ça, défendre l'indéfendable, faire de criminels des gens qui sont sains. Mais c'est que Genet le faisait à partir de sa vie, où il a vécu à une époque où ben, l'homosexualité c'était pire qu'aujourd'hui, de loin. Puis donc, il a connu ce rôle de la personne abjecte-là de manière très forte.
Et c'est vrai que, bon, alors lui, on peut dire que c'était une sorte de moraliste à contre-courant.
Ouais, on peut dire ça, je pense. Ouais.
Mais vous utilisez peut-être justement, alors on parlait hier d'écrire le sexe ou la représentation de la sexualité de manière peut-être plus politique, un peu plus... Pour traiter le sujet l'aborder de manière plus politique ou...
Ouais. Ben, les moralistes sont politiques aussi, dans un sens. Ben, les moralistes qui se posent la question du bien et du mal, pas ceux qui y répondent. Parce que c'est quand même important. Il y a un courant littéraire super intéressant qu'on appelle les moralistes. C'est des gens qui se questionnent, en fait. C'est des gens qui savent pas c'est quoi la morale. C'est pas des gens qui nous la donnent. Donc, moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Puis, C'est ça finalement pour moi une question politique. T'sais, une question politique, c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse. Puis même, je trouve que pour avoir une, une position qui est politique, il faut toujours éviter d'être finalement dans une position qui est trop stricte, trop franche, où on sous-entendrait qu'on a trouvé, nous, la bonne solution, parce que ça arrête la pensée, ça arrête le mouvement. Puis c'est ça, moi, je pense que la politique, il faut que ça soit quelque chose dont les bases sont toujours remises en question.
On est parti très vite, un peu très loin, mais on va revenir un peu plus dans le, dans l'angle du podcast qui s'intéresse effectivement à pourquoi on se met à écrire finalement. Mm-hmm. Donc voilà, ce serait ma première question. Je reviens en arrière un petit peu. Et juste pour savoir, qu'est-ce qui chez vous a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a dit, tiens, moi je vais écrire? Et puis l'autre question, enfin c'est un peu deux questions en une, c'est pourquoi aussi... Quand est-ce que vous avez décidé d'écrire un roman et de le publier? Parce que bon, voilà, il y a écrire, on peut écrire pour soi, on peut écrire pour ses études, on peut écrire pour son journal intime. Et puis il y a un moment aussi, on se dit qu'on va écrire pour les autres. Et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un écrivain, d'un auteur.
Moi, je pense que l'espèce d'énergie qui me fait écrire, c'est une phrase que j'utilise dans mon roman « Tu aimeras ce que tu as tué », puis qui est une phrase que je reprends de Riboulet en la transformant. Mais Riboulet dit un de ses personnages une fois, Avec Bastien, « Ce qu'il porte en lui est trop grand et le monde trop petit ». Je pense que moi, j'ai vraiment eu en grandissant ce sentiment-là d'avoir quelque chose en moi de trop grand pour moi, que je pouvais pas comprendre, que je pouvais pas vivre dans un sens qui débordait de partout. Puis l'écriture, ça a été une manière de pas faire de l'ordre, parce que c'est trop anarchiste, l'écriture, pour ordonner les choses, mais une manière du moins d'ouvrir un processus de compréhension par rapport à certaines choses qu'on a vécues.
Quand est-ce donc que vous avez décidé que ces écrits-là pourraient être publiés? Enfin, c'est que vous vous rappelez du moment où est-ce qu'il y a eu quelque chose, ou peut-être que ça s'est fait naturellement, mais est-ce que...
Ouais, moi, c'est assez tard. Tu sais, j'ai commencé... Tu sais, quand j'étais enfant, j'écrivais des petites histoires, des trucs comme ça, mais je pensais pas... T'sais, moi, je disais surtout... Je viens pas d'un milieu littéraire, je disais surtout de la fantasy, des trucs... traduit des romans policiers ou des trucs traduits pour la jeunesse. Puis donc dans ma tête, les auteurs, c'était comme, tu sais, c'était très loin là. J'en connaissais pas d'auteurs. Pour moi, c'était comme des, je sais pas, là, un peu comme les gens qui font les films, tu sais, j'imaginais pas que tu pouvais devenir ça, tu sais. Puis c'est plutôt au cégep, donc vers 16-17 ans, où là j'ai eu des cours de création littéraire.
C'est quoi le cégep?
C'est entre l'université puis l'école secondaire. Ouais. C'est une institution qui est juste au Québec, en fait. C'est 2 ans, puis où on a une formation générale. On choisit soit, je sais pas, histoire, littérature, un peu comme au bac, là. Mais donc, ça reste une formation pré-universitaire. Puis donc, c'est ça, dans ce cadre-là, j'ai eu des cours de création. Puis là, on avait un prof qui était très... lui, qui était lui-même écrivain, puis qui était très enthousiaste, puis... donc, lui, je me souviens qu'il m'avait comme fait comprendre, tu sais, que... Un peu mieux, c'était quoi, l'écriture? Ouais. Puis après, mais là, je sentais pas que je pouvais publier vraiment, parce que je pense que je cherchais encore un peu c'était quoi mon projet littéraire. C'est plus tard, au début de la vingtaine, à l'université, que là... puis avec le premier texte, le premier roman que j'ai écrit, Tu aimeras ce que tu as tué, qui est une sorte d'autobiographie faussée, masquée, fantasmée, où là, je me suis dit, ce texte-là, je pense que je peux le sortir... de moi.
Voilà, le premier texte, c'était assez un peu d'autofiction, on pourrait dire.
C'est ça, on pourrait dire, mais dans une démarche qui n'est pas une démarche de fidélité ou de vérité à l'expérience. Parce que j'avais l'impression que c'était... Pour exprimer les affects que j'ai vécu, j'avais besoin de raconter des choses qui n'existent pas, puis que j'ai pas vécu.
Alors, vous avez mentionné quelque chose d'intéressant, parce qu'en France, c'est vrai que les cours d'écriture littéraire, on dit creative writing, ça se développe petit à petit, mais c'était pas trop la tradition hexagonale, on va dire. Mm-hmm. Et ça, c'est intéressant d'en parler un petit peu pour savoir oui, comment ça marche, en fait, ces cours d'écriture. Qu'est-ce qu'on y fait? Parce que comme il y a beaucoup de clichés, alors il y a beaucoup de clichés sur les écrivains en général, mais sur ces cours-là aussi, comme on ne sait pas trop encore bien les appréhender en France, à quoi ça consiste?
Ben finalement, c'est juste une structure pour que des auteurs fassent des choses qu'ils font même s'ils n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'en France, quand il n'y avait pas de cours de creative writing, ben, on le sait quand on lit les correspondances d'écrivains puis les biographies, que les écrivains se lisent entre eux, qu'ils répondent aux textes des autres, que ben, même au 19e siècle, c'était comme ça. Il y avait des salons où on réagissait aux poèmes qu'avait écrit le mardi chez Mallarmé, tel auteur. Donc, c'est ça, finalement, c'est juste une sorte de structure institutionnelle où on peut avoir un regard intersubjectif sur les textes qu'on écrit. T'sais. Fait que c'est sous forme d'atelier la plupart du temps. Parfois, il y a des. Moi, quand j'enseigne, il y a une partie plus théorique, c'est-à-dire que je prends un texte, puis je fais une sorte d'analyse, puis en discussion avec les étudiants qui ont lu le texte aussi. Puis on essaie de voir comment l'auteur, à partir de la question qu'on s'est donnée, mettons, puis c'est des questions très générales, t'sais, le personnage, le lieu, comment travailler l'atmosphère. On essaie juste de voir comment cet auteur-là a fait. T'sais. Donc, pas pour avoir une recette ou une marche à suivre, mais juste pour s'inspirer de voir comment d'autres gens ont travaillé une question. Puis à partir de là, on peut se distinguer, on peut faire autre chose, on peut leur voler des idées aussi, parce que c'est ça la beauté de l'écriture. Puis donc, c'est ça. Puis généralement aussi, ça se produit en forme d'atelier. Donc, on lit les textes des autres, puis on discute de ce que les autres ont écrit. Donc, on travaille aussi à se distancier de nos textes. Assez rapidement, on est forcé de se rendre compte que nos textes, c'est pas notre peau. Donc, on peut les triturer sans que ce soit douloureux. Puis, c'est peut-être bon pour le texte, parfois, de le changer, de le travailler, de le modifier. Puis, on reçoit aussi toutes sortes de commentaires qui vont dans des directions parfois différentes. Parce que, évidemment, c'est intersubjectif. Donc, il y a plusieurs personnes. Donc, des fois, il y a des trucs récurrents. Ça aussi, ça nous aide parce qu'on est comme, ah ben là, tout le monde n'a pas compris cette phrase-là. T'sais, peut-être que ça veut dire qu'elle n'était pas claire, la foutue phrase, tu sais. Et je vais la réécrire. Mais des fois aussi, il y a la moitié des gens qui ont pensé une chose, l'autre moitié qui ont pensé autre chose. Puis là, ça nous amène dans ce temps-là, nous, à trancher, puis à se demander c'est quoi le désir, c'est quoi le sens de ce que j'écris, puis la chose la plus intéressante que je peux faire. Fait que, grosso modo, c'est un travail qui ressemble, on pourrait dire, à l'édition, mais qui se produit dans d'autres contextes, puis de manière plus organique, peut-être.
Mais ça sert de mentor aussi, de gens avec qui... Non, mentor, c'est peut-être un petit peu
fort. Oui, il y a une forme de mentorat, parce que les professeurs qui enseignent, souvent, c'est des écrivains aussi. Mais c'est un mentorat qui a pour objectif d'émanciper l'autre. T'sais, c'est pas un mentorat qui a pour objectif de transmettre un savoir constitué ou une série de doctrines.
Et alors, quand on écrit, on reste quand même... C'est très solitaire. Moi, j'aime bien creuser un peu parfois cette question de la routine. Est-ce que vous avez est-ce que vous vous imposez d'écrire tous les jours? Est-ce que c'est le matin, le soir, je sais pas quoi? Est-ce que c'est... Il faut avoir fait un jogging avant?
Ouais.
Est-ce que cette question qu'on se pose de la routine?
Ouais, la routine, moi, je trouve qu'il faut écrire le plus... Comme tous les matins, mettons, le plus longtemps possible, avec le plus de régularité possible. Puis, idéalement, c'est ça. Moi, je trouve que... Si j'arrive pas à bien écrire, je trouve que si j'ai... mettons, le lundi, j'ai mon matin disponible. Après ça, tout le reste de la semaine, je suis occupé, fait que j'y arrive pas. Fait que là, la semaine d'après, je vais écrire juste jeudi, samedi. Puis moi, on dirait que ça me prend vraiment un bloc avec beaucoup de temps. Parce que, tu sais, il y a toutes sortes d'étapes différentes dans l'écriture. Il y a le moment où tu sors le texte, c'est comme le premier jet, où là, c'est plus un truc de... Même des fois, moi, je me donne des objectifs. Je suis comme, OK, aujourd'hui, j'essaie de faire 400 mots, tu sais. Ça veut pas dire que les 400 mots vont rester, tu sais, mais c'est juste... un travail pour la première étape, sortir le texte. Puis après ça, il y a des étapes infinies de relecture, de retravail, de relecture à différents degrés aussi. Tu sais, des fois, tu fais des relectures qui sont plus structurelles. Des fois, j'essaie de plus lire comme un lecteur, si on veut. Tu sais, fait qu'une lecture plus légère, voir comment on suit l'histoire, est-ce qu'il y a des incohérences. Des fois, c'est vraiment du travail plus de... presque du travail comme un mineur, là. On travaille sur la phrase, puis on gratte, puis on creuse, puis on essaie d'arranger, puis d'approfondir le texte.
Alors, hier, j'ai noté une idée aussi qui m'a beaucoup intéressée. C'est à un moment où vous avez dit que chez bon, des auteurs très, très, très célèbres comme Virginia Woolf, Marcel Proust, etc., on notait l'exploration de la vie intérieure de manière... Mm-hmm. Enfin, c'est des spécialistes de l'exploration de la vie intérieure, et que peut-être ça leur vient justement de leur marginalité, de leur homosexualité, ou de leur...
Ouais.
Qui leur donnerait comme ça cet intérêt pour les secrets ou ce regard, ce regard de la marge, moi j'ai envie de dire, ou ce regard décalé par rapport aux choses. Et
tout à fait.
J'aimerais creuser cette question un tout petit peu. Si
ouais, peu. Henry James aussi a fait du secret un des grands thèmes de son œuvre. Puis il avait. Ben.
Est-ce que c'est intéressant? C'est ça qui est intéressant d'écrire, c'est sur les secrets.
Ben moi je trouve que l'expérience de beaucoup de personnes queer, gays ou lesbiennes. Et puis trans aussi, c'est que, en fait, tu vis une partie de ta vie dans le secret, une partie plus ou moins longue selon le moment où tu vis, mais quand même, tu vis ça. Puis t'as aussi, t'es souvent confronté à réfléchir, à te mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que souvent, tu vas te demander, « Ah, mais est-ce que le regard de telle personne, c'était un regard... d'attirance, d'invitation, d'ouverture, ou au contraire, c'est quelqu'un qui, si je l'approche parce que cette personne me m'attire, pourrait me mettre en danger. » Donc, on apprend très vite à décoder des signes, à essayer de s'imaginer ce que l'autre personne pense. Puis aussi, c'est ça, vivre avec le secret, ça vient aussi avec une forme d'autosurveillance qu'on développe. Donc, moi, enfant, par exemple, je voulais absolument pas, parce que je me faisais... On dirait que toute l'école, puis les camarades, puis mes parents remarquaient dès que je faisais un truc qui était efféminé ou qui pouvait trahir quelque chose de gay. Puis donc, j'ai développé une sorte de sens d'autosurveillance où là, je me regardais moi-même, puis je m'observais moi-même, ma manière de bouger, ma manière de parler, ma manière de penser, pour pas me trahir, tu sais. Mais donc, en s'observant soi-même comme ça, c'est douloureux de faire ça, mais ça fait que je trouve qu'on développe une sorte de rapport à la vie intérieure singulier, disons. Je vais pas dire que c'est juste les queers qui ont ça, là, mais c'est pas ça l'idée, mais je pense que c'est quand même un truc assez... qui est partagé par une bonne partie de la littérature LGBT.
Il y a un sens un peu aiguisé de...
Ouais. Ben, moi, je trouve. Puis c'est ça aussi, un intérêt pour la complexité, les contradictions, pour la différence, puis la distance qu'il y a entre la façade sociale puis l'intériorité aussi. C'est beaucoup chez Proust, ça. Pour les renversements aussi, pour les gens qui changent. Donc, dans Proust, il y a beaucoup ça. On connaît les gens selon une facette, puis après ça, on les rencontre un tome ou deux plus loin, puis ils sont complètement différents, ils ont changé, même des fois physiquement. Donc... ouais, moi, je trouve que ça, c'est une dimension de la littérature queer que j'adore.
Et peut-être aussi un intérêt pour la marginalité dans le sens des luttes, les luttes sociales, parce que là, je fais référence donc, à Querelle, alors le vôtre.
Ouais.
Donc, celui de jeunesse était à Brest, chez les marins, mais le vôtre, c'est dans une scierie, c'est ça, la foresterie. Quoi.
Ouais.
Et là, vous parlez aussi genre, des luttes syndicales. Enfin, je sais que c'est un thème qui vous intéresse, que vous aimez traiter. Là.
Ouais, tout à fait. Ouais, mais parce que tu sais quand tu vis d'abord tu sais de l'homophobie ou quand t'as pas le droit d'être qui tu es, ça vient avec la colère, tu sais, ça vient avec de l'incompréhension pour les structures qui t'empêchent de vivre, tu sais. Puis moi cette colère là, elle s'est transformée un peu, elle s'est comme politisée en vieillissant, tu sais. Je pense que les gens qui vivent ça ont plein de chemins différents, mais moi c'est ce chemin-là que ça a pris, c'est-à-dire que je me suis mis à, tu sais, j'ai découvert le marxisme, l'engagement social, l'anarchisme, puis ça c'est comme venu donner une sorte de colonne vertébrale, on dirait, à ma colère, puis c'est venu aussi l'ouvrir à d'autres choses, tu sais. Donc je me suis mis, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à comment toutes les formes d'exclusion sont liées, en fait, tu sais, c'est des choses qui procèdent d'un même mouvement puis qui sont dans un même monde de toute manière, donc forcément ça va ensemble. Puis ouais, moi dans la littérature j'essaie de me questionner là-dessus, sur la possibilité qu'ont les humains de demander un changement, de l'exiger, puis aussi de le faire en s'unissant, en formant une forme de communauté. Je m'intéresse aussi à comment c'est difficile la communauté, parce que la communauté est toujours déchirée de l'intérieur et faite de dissensus. Donc, j'essaie toujours de voir c'est quoi le point de bascule, jusqu'où la communauté peut tenir avant qu'elle se déchire pour être dans une forme de demande sociale ou d'exigence politique.
Le temps tourne. Alors, je vais quand même citer le nom exactement de vos livres, puisqu'on
n'a
toujours pas fait ça. On pourrait le faire. Donc, 2017, c'était « Tu aimeras ce que tu as tué ».
Ouais.
2018, Querelle de Robert Val, et 2022, Que notre joie demeure. Mm-hmm. Tout ça, c'est aux éditions Héliotrope. Alors, ça, c'est au Québec.
Ouais.
Mais en France, c'est le nouvel Attila qui intervient. Ouais. Alors pourquoi ce besoin, justement, ça m'intéresse, ça, d'un éditeur français. Il y a une traduction, même si vous êtes d'expression.
Ouais, non, c'est pas vraiment une traduction.
L'adaptation.
C'est, dans le fond, moi, j'ai publié un petit éditeur au Québec qui publie une dizaine de livres par année. Donc, il n'y a pas du tout la structure pour diffuser en France, par exemple. Mmh. C'est pas dans leur projet. Je pense que c'est pour la taille qu'ils ont, c'est pas très... Fait qu'eux, le modèle qu'ils ont privilégié pour la diffusion en France, c'est un peu la coédition, si on veut.
D'accord.
Donc, ils travaillent avec d'autres éditeurs en partenariat, par cession de droits et tout. Puis donc, puis moi, je trouve que c'est un modèle qui est intéressant parce que ça fait que j'ai un éditeur aussi... Ben, tu sais, c'est aussi un indépendant, c'est un petit éditeur aussi ici, mais c'est un éditeur aussi qui a ses propres réseaux en France, qui connaît ses... Donc, je sais pas, là, c'est deux éditeurs qui sont adaptés chacun à leur milieu. Et pour mon premier roman qui a été publié, Querelle, donc c'est un roman qui est écrit beaucoup en discours indirect libre, puis où il y a beaucoup de langue orale du Saguenay, Lac-Saint-Jean, la région d'où je viens, donc de la langue orale du Québec, mais aussi d'une région en particulier, fait qu'il y avait beaucoup d'expressions, par exemple, qui passaient, puis pas seulement dans les dialogues, ça avait été seulement dans les dialogues, comme c'est souvent le cas dans les romans, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. Tu sais, Michel Tremblay, par exemple, a publié tous ses romans où les dialogues sont écrits de manière très orale, puis la narration est écrite de manière normative. Ça dérange moins, je pense. Mais moi, comme c'était dans le corps de la narration, puis il y avait des expressions très singulières liées à une région du Québec, ça pouvait poser un problème de compréhension. Fait que quand je sais pas, le lectorat français, par exemple, pouvait pas comprendre une phrase ou une formulation, on a modifié légèrement en ajoutant surtout pas un mot que les personnages pourraient pas dire eux-mêmes, là, tout en gardant une cohérence... pour le lieu où ça se déroule, mais en mettant des expressions peut-être un peu plus neutres pour que quelqu'un puisse comprendre. En attendant que les Français, évidemment, connaissent la langue québécoise sur le bout de leurs doigts. Oui, c'est ça va venir.
Toujours sur la question des mots et de la langue, hier vous avez dit, là, lors d'écrire le sexe, le débat qui était organisé ici par le Festival America, que vous aimiez mélanger les registres en utilisant des mots usés parfois, comme le « vie », que vous avez pris à Sade. Vous avez
ouais.
Et comment vous faites ça?
Ouais, ben moi, dans Querelle, je me suis vraiment permis d'utiliser tout. Tu sais, pour moi, la langue, c'est un peu l'outil de l'écriture. Puis je vois pas pourquoi je devrais hiérarchiser les instruments qui sont dans cette boîte à outils-là. Tu sais, donc je me permets vraiment d'utiliser des mots désuets qu'on n'utilise plus en français, des mots précieux même, que souvent je paye dans la poésie du 19e siècle ou chez Sade, comme le mot vie. Mais je me permets aussi d'utiliser des expressions orales de ma région, des termes qui sont de l'ordre du discours social. Puis j'essaie aussi de mélanger ces choses-là ensemble, parce que c'est des matériaux habituellement qui existent, mais qui existent dans des sphères séparées. Puis moi, dans le travail d'écriture, j'ai essayé de travailler tout ça ensemble pour comme créer ma langue.
Est-ce que, justement, une phrase peut naître d'un mot comme ça intéressant que vous avez pioché quelque part?
Ben
ou est-ce, que vous allez le chercher parce que ça va dans les deux sens, j'imagine?
Complètement, ouais. Souvent, c'est une recherche qui n'est pas très consciente, là. Moi, quand j'écris, je lis toujours beaucoup. Je prends des pauses, j'ouvre un livre au hasard à une page où je lis un poème de, je sais pas, le Baudelaire, parce que, je sais pas, mon intuition me dit de faire ça. Puis des fois, je trouve des réponses, tu sais, des fois... C'est parce que dans l'écriture, l'écriture, c'est une activité énergétique, tu sais, fait qu'il y a des hauts, il y a des bas, des fois, il y a comme des fatigues. Je me souviens, quand j'écrivais Querelle, en particulier, j'avais vraiment toujours Querelle de Brest à côté de moi, puis je m'en servais presque comme d'un tarot, tu sais. Donc là, des fois, je sais pas, là, j'avais une baisse, ou je savais pas où aller après, puis là, j'ouvrais le livre comme s'il allait me donner une réponse, puis souvent, il m'en donnait. Donc le livre m'envoyait des mots, m'envoyait des phrases, m'envoyait des scènes ou des situations, des éléments de sentiments ou de narration qui me relançaient, en fait. Donc, des fois, la trace, elle n'est pas restée, là, tu sais. Mais c'était juste... souvent, je me sers des livres comme ça, comme une sorte de... comme pour lire un peu l'avenir.
Donc, vous n'êtes pas de ces écrivains qui n'ouvrent surtout pas un livre de peur de se faire influencer par...
Ah, je trouve ça terrible de dire ça.
J'ai entendu ça.
Je veux dire, oui, il y en a beaucoup qui disent ça, mais je veux dire, je les respecte. Ils font ce qu'il faut pour protéger leur écriture puis pour arriver à faire les livres qu'ils veulent faire, t'sais. Mais moi, de mon point de vue strictement égoïste, là, moi, ça me fait presque peur parce que je suis comme, non, j'ai besoin d'être influencé le plus possible. J'ai besoin d'être drogué, moi. Quand j'écris aux mots des autres.
Oui, puis c'est vrai si on a une panne, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais un moment de baisse énergétique de l'écriture, c'est vrai qu'on a peut-être besoin d'être nourri par les autres. Quoi.
Oui, puis c'est la matière, c'est notre matière, les mots, l'écriture et tout. Donc, Moi, souvent, je trouve des énergies là, ouais.
On arrive bientôt à la fin de notre entretien. Alors, j'ai coutume de toujours poser un peu la même question. Bon, c'est pas la meilleure, peut-être, mais bon, j'aime bien quand même la poser. Comme ce podcast peut être écouté par des gens qui aimeraient se lancer, mais qui n'osent pas, par exemple. Okay. Est-ce que vous auriez, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner ou un anti-conseil?
Moi, j'ai fait ma thèse sur l'écriture,
oui,
sur les écrivains qui ont parlé de l'écriture, puis des hauts et des bas, des difficultés et des extases. Fait que c'est un sujet qui m'intéresse. On aurait pu faire un autre podcast.
Ah ben, on fera un podcast peut-être.
Ouais, c'est ça.
Rendez-vous là-dessus. Ah
ouais. Un épisode 2. Moi, la phrase que je préfère sur l'écriture, ben, on n'est pas sûr d'ailleurs que ça parle d'écriture, mais moi, je pense que oui, c'est la phrase de Beckett qui dit, là, je vais peut-être la citer mal, là, mais essayez, ratez, essayez encore, ratez mieux. Donc, moi, je trouve que l'écriture, c'est un travail du raté mieux. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à écrire l'idée qu'on avait, l'idéal du livre, le fantasme qu'on avait du texte qu'on voulait faire. On n'y arrive jamais. Puis le travail, c'est une sorte de deuil de cet idéal-là. C'est une forme de ratage, l'écriture. Des fois, on le sent très fortement. On se relit, puis on a l'impression que c'est de la marde. Mais faut apprendre à vivre avec ce ratage-là. Faut apprendre à avoir une relation, je pense... déculpabiliser avec le ratage, il faut apprendre à rater mieux. Donc, même si on est dans une forme de ratage, on peut pas s'en sortir, ben, on peut essayer de que le ratage soit un peu moins douloureux, puis un peu plus, qui ouvre des possibles.
Je crois que c'est un très bon conseil. Et donc, dans cette idée de rater mieux, donc il y a l'effort, donc, on a déjà parlé de réécriture, et à un moment, il faut justement décider qu'on arrête, qu'on fera peut-être pas mieux pour ce texte-là.
C'est ouais, ça? C'est difficile ça parce que un texte, moi je pense que ça peut se travailler potentiellement infiniment. Tu sais, on pourrait retravailler le même texte toute sa vie comme le chef-d'œuvre inconnu. Moi, je le ressens avec mes textes. Même quand je les lis en livre, des fois, j'aurais le goût de réécrire des phrases, de changer des choses. Tu sais, mais oui, ça prend une sorte de sursaut, un moment où de sourcil, je sais pas, mais un moment où l'écriture se suspend. Puis moi, je pense que c'est le livre finalement qui vient arrêter l'écriture. Tu sais, c'est le support, c'est l'objet qui vient fixer le texte.
La date limite de l'éditeur.
Ouais, puis on le voit quand on regarde des auteurs classiques. Tu sais, Victor Hugo, lui, a modifié ses textes toute sa vie. Lui, c'est drôle parce que c'est comme s'il croyait pas au livre, fait qu'il modifiait directement dans le manuscrit, comme si le manuscrit allait se synchroniser, un peu comme nos téléphones se synchronisent, là. Allait synchroniser avec
le cloud,
les livres publiés. C'est ça, il était déjà sur le cloud. Mais je sais pas, je trouve l'anecdote touchante parce que j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que tous les écrivains l'ont un peu dans un sens.
Bien, nous allons rester sur la perspective infinie de réécriture. Je vous remercie, Kevin Lambert, et bonne fin de festival.
Ben, merci pour cette rencontre.
Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.